Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Alors que Téhéran s'affranchit de l'accord sur le nucléaire, quelques roquettes sont tombées dimanche dans les environs de l'ambassade des États-Unis à Bagdad, en Irak. Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Que peut-on prévoir aujourd'hui au sujet de cette escalade ?
On est dans une situation d'attente parce que d'un côté, on a des acteurs, deux grands acteurs, les États-Unis et l'Iran, qui ne veulent pas d'un conflit ouvert, qui ne veulent pas d'une grande guerre. Et en même temps, vous avez l'Iran qui, évidemment, va riposter et Trump qui menace lui-même puisqu'il a, il a quand même eu quelques tweets tout à fait dévastateurs hier.
En fait, je crois avec un chiffre, 52 sites sont visés par les États-Unis. Quels sont ces 52 sites? Quelles sont leurs caractéristiques?
Ah, écoutez, ça, évidemment, je n'en sais rien, mais ce qui est intéressant, c'est deux choses. D'abord, le 52, parce que ça fait référence, bien sûr, aux otages américains à Téhéran en 1979. C'est dire à quel point la mémoire de cette prise d'otage, qui a été le véritable premier acte, le second acte de la révolution iranienne, pèse dans la mémoire américaine. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela que, je crois, ce qui a fait Trump prendre sa décision jeudi dernier d'éliminer Soleimani, c'était l'attaque contre l'ambassade américaine à Bagdad. Mais Trump aujourd'hui, il est relativement satisfait à mon sens. On n'est pas en 2003. On n'est pas avec une Amérique totalement obsédée par la guerre qui veut absolument rendre gorge à Saddam Hussein. On n'est pas du tout avec l'équivalent en Iran. Aujourd'hui, Trump ne veut pas la guerre. Il est satisfait de ce qu'il a fait. Il n'a pas du tout envie de se lancer dans une escalade militaire plus importante alors que débute la campagne électorale. Ceux qui disent qu'il veut chercher à éloigner, détourner l'attention de la procédure d'impeachment, à mon avis, ont tort. Ça n'est pas le sujet. Là, ce qu'il peut dire aujourd'hui dans la campagne, c'est j'ai éliminé deux des grands ennemis des États-Unis, Abu Bakr al-Baghdadi pour l'État islamique et Qassem Soleimani pour l'Iran. Donc, de son point
l'un
de vue,
l'un est déjà remplacé, l'autre le sera prochainement.
Oui,
Bruno Tertrais.
Oui, mais ce ne sont pas des figures aussi. Ce ne sont pas des figures symboliques. C'est le symbole compte dans un clip de campagne électorale. Ce que vous voulez montrer, ce sont des symboles. Il peut dire aujourd'hui, j'ai fait mieux qu'Obama. J'en ai éliminé deux et ils étaient actifs. Donc ça peut s'arrêter là pour Trump. Mais le problème, c'est que bien sûr, l'escalade de la guerre, elle se produit pas simplement sur les décisions d'un seul acteur. Il y a bien sûr les Iraniens qui vont évidemment riposter.
Et ça ne peut pas s'arrêter pour les Iraniens.
Mais non, ça ne peut pas s'arrêter. Toute la question est de savoir si les Iraniens ripostent symboliquement parce que eux aussi, ils ne veulent pas d'une grande guerre avec les États-Unis qu'ils perdraient, qu'ils le savent, ou s'ils se sentent obligés de riposter plus fort et s'il y a des Américains qui meurent. Et ça, c'est là, pour le coup, c'est de nouveau une ligne rouge franchie et la dynamique de l'escalade commence. Un dernier mot sur ces 52 sites. Alors évidemment, moi je ne sais pas ce que sont ces sites, mais Trump a été extraordinairement brutal en parlant de sites qui ont une importance culturelle. Alors, s'il y a bien une chose qu'on ne fait pas dans le droit des conflits armés, c'est bien sûr pas les civils, mais aussi pas non plus les sites culturels. Et ça, c'est extrêmement problématique.
Cette signification site culturel, c'est étrange.
Non,
qu'est-ce que ça dit?
Moi, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ça peut être compris à l'extérieur. Ça veut dire que Trump n'a pas de limite. C'est ça qui compte, vous voyez. Quel que soit ce qu'il est vous le dire exactement. Ce qui est intéressant, c'est comment c'est interprété en Iran et ailleurs. Ça veut dire que Trump n'a pas de limite, il peut faire n'importe quoi. La question c'est, est-ce que ça va faire peur aux Iraniens ou au contraire, ça va décidément les encourager dans l'idée que de toute façon, Trump veut leur peau. C'est ça la question et c'est pour ça que la dynamique de l'escalade, elle est là et elle est dangereuse.
Et alors de l'autre côté, donc du côté iranien, cette fin de l'accord sur le nucléaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Bruno Tertrais? Est-ce qu'on est face à une menace nucléaire?
Non, pas vraiment, parce que c'était un calendrier attendu. En fait, c'est une coïncidence de date, mais les Iraniens avaient averti qu'ils sortiraient progressivement des contraintes qui leur étaient imposées par l'accord de 2015 qui a été déchiré par Trump. Mais simplement, ça tombe très mal. Ça tombe très mal parce que ça donne le sentiment que, une fois de plus, le nucléaire se mêle de ce vieil affrontement irano-américain. Et donc, ça va donner du grain à moudre supplémentaire à ceux qui, à la Maison-Blanche, au Pentagone ou ailleurs, veulent régler son compte à l'Iran. Donc le problème, c'est que c'est pas une étape. Les Iraniens ne sortent pas de cet accord nucléaire, mais ils franchissent une nouvelle étape dans la libération des contraintes de cet accord. Et donc cette coïncidence malheureuse, parce que ce calendrier était encore une fois prévu, va donner du grain à moudre à ceux qui veulent régler son compte à l'Iran, à Washington. Et du coup, la dynamique d'escalade s'en trouve encore renforcée.
Et donc là aussi, on n'imagine pas que l'Amérique puisse rester inerte. Pas seulement par rapport aux menaces sur ces 52 sites que l'on a évoqués, mais aussi par rapport à ce risque nucléaire ou cette décision donc de s'affranchir de l'accord sur le nucléaire.
Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils ont déjà rétabli toutes les sanctions américaines, donc les Américains ne peuvent pas faire grand-chose de plus sur le nucléaire. Simplement, moi j'essaie d'imaginer froidement ce qui peut se passer dans la discussion entre Trump et ses généraux et les planificateurs du Pentagone. La question qui est posée aujourd'hui, c'est si jamais nous devons aller plus loin et véritablement frapper en Iran et non plus en Irak, alors est-ce que on va s'attaquer aux gardiens de la révolution ou aussi aux sites nucléaires? Voilà le type de questions qui sont discutées aujourd'hui.
Était-ce opportun de jouer aujourd'hui le bout de feu? Je parle de Donald Trump.
Alors Donald Trump a tenté un coup extrêmement symbolique et extrêmement fort, mais il avait un but qu'on peut comprendre, qui est, je veux rétablir la dissuasion. Je veux, en frappant très fort, essayer de m'assurer que les Iraniens ne vont pas plus loin dans les attaques qu'ils commettent directement ou indirectement, via les milices ou via les gardiens de la révolution, contre les intérêts américains. Donc, je comprends le but. Simplement, c'était extrêmement risqué d'aller aussi loin. Je ne sais pas si ça va réussir ou pas. Là encore, tout dépend de la manière dont Téhéran interprète les choses et la manière dont les Américains interprètent ce que fait Téhéran. C'est ça le problème de la guerre. C'est le brouillard de la guerre. Regardez, avant-hier, on a repéré des activités sur les sites de missiles balistiques iraniens. Bien. Comment est-ce que les Américains interprètent ça? C'est ça la question. Il y a deux manières de l'interpréter. Première manière, c'est les Iraniens se protègent simplement, cherchent à parer une éventuelle attaque militaire américaine. Donc c'est une mesure défensive. Autre manière de l'interpréter, c'est « Oh là là, attention, ils se préparent justement à effectuer des tirs de missiles sur des pays de la région, Arabie Saoudite et autres. » Et donc, moi, je ne sais pas l'interprétation, mais surtout, le problème, c'est comment Washington interprète ça. C'est ça le brouillard de la guerre, c'est ça la dynamique de l'escalade.
Vous avez publié un livre important, Bruno Tertrais, « La revanche de l'histoire ». On le trouve aux éditions Odile Jacob. Merci de nous avoir éclairé sur cette situation.